Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Raymond, j'ai une très très bonne blague. Mais je te l'ai peut-être déjà racontée.
Elle est drôle?
Très.
Alors non, tu me l'as jamais racontée. Ben, qu'est-ce que t'attends? Vas-y.
T'es trop con.
Ah bah si, tu me l'avais déjà raconté.
Oui, et c'est certainement la plus mauvaise blague que Huguette nous fait, effectivement, nous ayant quitté vendredi dernier. Marion Gamme s'en est allée à l'âge de 84 ans. Nous souhaitions lui rendre un hommage en cette ouverture d'émission, elle qui a tant illuminé nos soirées sur M6 dans Scène de ménage, qui incarnait également la mère de Stéphane Hénon dans Plus belle la vie. Tellement de beaux rôles au théâtre, au cinéma. C'était une actrice qui avait une énergie absolument communicative et assez incroyable. Et moi, je me souviens d'une rencontre, c'était ma première interview avec Marion Gamme, c'était en 2013. Scène de ménage était à l'antenne depuis maintenant quelques années. Nous avions eu l'occasion de rencontrer Marion Gamme. On va vous repasser cet entretien, une partie de cet entretien en tout cas, avec Marion, qui n'avait pas du tout lésiné sur le coup de cœur qu'elle avait eu pour mon t-shirt ce jour-là. On vous laisse apprécier et on revient juste après.
Bonsoir. Dites-moi, sur votre t-shirt, Gignos, c'est pas un peu gonflé quand même comme titre, ça? Vous êtes sûr que vous pouvez assumer ça?
Oui, j'assume Gignos. Tout, moi, j'assume tout, Huguette.
D'accord.
Bon, ce soir, l'ouverture de ce festival, c'est évidemment avec Scène de ménage, le Prime, qui sera diffusé le 17 septembre prochain. On va pas se tromper de moi, c'est encore l'été, mais on va pas se tromper de moi. Un Prime avec encore plein d'invités, de guests. Ça vous fait quoi d'être l'ouverture du festival de la fiction télé?
Bah écoutez, j'ai très peur parce que je ne sais pas si j'ai apporté la bonne robe, monsieur. J'espère que j'aurai de quoi me vêtir pour assister à cette cérémonie quand même assez prestigieuse. Mais c'est vrai que ça va nous faire drôle parce qu'on a plein d'invités formidables, vraiment. Vraiment. Écoutez, on a eu des invités tout à fait remarquables. On a eu Catherine Jacob, on a eu Francis Perrin, enfin je ne vous dis pas tout. Des tas. On a été vraiment, vraiment très gâtés. Avec les guests.
Et Raymond, qui est dans les parages, qui n'est pas très très loin, sera avec vous ce soir. Vous êtes le couple star de Scène de ménage. D'ailleurs, ça tombe bien, parce que c'est le public aujourd'hui qui vous élit très souvent le couple préféré de Scène de ménage.
Ça, je ne comprends pas très bien pourquoi. Parce que franchement, entre Raymond, qui est strictement odieux, antipathique, détestable, et moi qui suis une pauvre femme avec les bras sur les chevilles, je ne comprends pas comment le public nous choisit. Mais c'est génial. On prend ça mais de plein cœur, avec bonheur, avec tendresse. Et c'est très, très émouvant. Très émouvant. L'amour du public actuellement, ça nous porte à bout de bras avec Gérard. Et on est trop heureux de ça, quoi, vraiment.
C'est une drôle d'histoire d'ailleurs qui arrive à un tournant de votre carrière et puis d'un seul coup, vous qui faisiez une carrière avec Gérard un peu moins exposée médiatiquement, on peut le dire, aujourd'hui, vous pouvez plus faire un pas dans la rue sans qu'on vous accoste, je suis sûr.
Bon, ça, c'est la médiatisation de la commercialisation de M6, en fait. Parce que ce qu'on fait avec Gérard dans Scène de ménage, on va dire, bon, on l'a vendu, entre guillemets, pendant des années. On a pu faire des choses tout à fait... Bon, pas remarquable, mais on avait du métier, on en avait sous le capot, comme on dit. Or, c'était pas autant médiatisé, c'est tout. C'est un problème de médiatisation, finalement, le succès, parce que bon, il suffit qu'on vous bombarde vraiment sur le devant de l'image, et puis ben, les gens achètent, quoi, parce que déjà ils achetaient avant, mais il n'y avait pas la même force de médiatisation. Et là maintenant on en bénéficie et on est très étonnés, mais en même temps on en profite lourdement, quoi. On est trop heureux.
On peut dire qu'M6 a réussi sa communication alors, finalement.
Ah bah oui, ils sont très très forts quand même là-dessus, c'est vrai. Ils nous ont vendu comme, je ne sais pas, des produits de consommation, quoi. Alors que nous, on fait juste notre travail, et ça fait des années qu'on le fait de cette manière-là, mais que ça n'avait pas le même impact auprès du public, parce que là, il y a une médiatisation énorme. Et maintenant, moi, j'ai vu ça, par exemple, cet été à Noirmoutier, où j'étais dans ma maison, et dès que je prenais bêtement mon caddie en étant mamie Marion qui va au marché, mais j'étais le joueur de flûte. De rayon en rayon, j'étais le joueur de flûte. Il y avait tous les gamins, les mamans, tout ça qui me couraient derrière. C'est extraordinaire. C'est une médiatisation, mais énorme, qu'on ne maîtrise plus avec Gérard. Mais quel bonheur. Quel bonheur. Merci M6 pour ça.
Justement, c'est ça qui est incroyable. C'est que le public vous élise couple préféré. Finalement, même si vous êtes odieux à l'écran, enfin, surtout Raymond, finalement, vous êtes les grands-parents idéaux.
Oui, je pense, je sais pas très bien pourquoi, ça c'est quand même compliqué parce qu'on est vraiment sordide, mais je crois que secrètement, on représente des personnes âgées qui sont encore en action, enfin qui avons encore du répondant, on va dire, et secrètement, on est peut-être ce que les gens n'oseront jamais être. Des fois, une dame m'avait dit ça une fois dans la rue, elle m'a dit « Mais comment vous êtes aussi monstrueux avec les autres ?» Je lui ai dit « Écoutez, essayez de réfléchir, imaginez l'éducation. Vous n'avez pas reçu l'éducation que vous avez et le secours de la religion. Foncièrement, vous êtes mauvais à l'intérieur. Vous feriez ce qu'on fait. Vous êtes retenu. C'est le secours de tout ça qui fait que vous retenez le cheval. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà, c'est vrai, l'éducation, la religion, les freins qu'on vous impose un peu dans la vie dès que vous êtes enfant. Sans ça, votre fond profond, c'est de prendre le gourdin et d'aller à la chasse et de tuer le dinosaure et de tuer son voisin et d'être méchant, quoi. Et nous, on ose être ça. Et donc, les gens se projettent dans cette vision un peu détestable, mais finalement bien fait triste pour eux, quoi.
Peut-être que vous dites justement beaucoup de choses tout haut, ce que beaucoup de gens pensent tout bas, finalement.
Absolument. Je vous dis, c'est l'éducation. On n'ose pas dire les choses. Alors que nous, on y va franco de port. Parce qu'on a une barrière, on a quelque chose de secours, c'est l'amour qu'on a l'un pour l'autre. C'est notre barrière à nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être désagréable, on ne peut pas être vraiment désagréable, parce que secrètement, on est proches tous les deux. Donc on est gentils entre nous, quoi.
Cher papy, chère mamie. Oula, ça part mal, là. Pour Noël, on voudrait... Une casserole de lieu. Non. Une camisole de vieux. Voilà. Ils écrivent comme des cochons. Hein.
Non, une consonne de pieux vidéos.
C'est quoi, ça?
Mais j'en sais rien. On n'est pas censé déchiffrer leur grabouille à ces petits cons. Allez, vas-y, continue.
Alors, un bobo télécommandé.
Oui, non, passe.
Une tenue de full bandeur.
Passe. Un passe.
Avec des piles.
Ils veulent des piles? Eh ben, on va leur offrir des piles.
Oh, bah, c'est une bonne idée, Raymond. Je vais leur faire un joli petit papier cadeau. Allez, hop.
Allez, c'est bien, les
piles. Des piles.
Et puis, un petit chocolat, ma poule. On n'y pense pas aux piles.
Merci Marion, en tout cas, pour tous ces bons moments. On va donc passer maintenant au sommaire de cette émission de chez On Écoute la Télé, avec Samuel Alain Bitbol qui va nous rejoindre dans une poignée de secondes. Il joue le rôle de Rémi dans Ainsi Grand Soleil. Il va faire son retour aux écuries, puisque Rémi s'occupe des chevaux dans la série. Samuel Alain Bitbol, atteint de trisomie 21, est un acteur incroyable que l'on va accueillir avec un grand plaisir. Et puis nous allons également aujourd'hui parler d'un véritable coup de cœur télé et doucement rallumer les étoiles qui est diffusé mercredi sur France 2. À cette occasion, la révélation en tout cas de cette fiction Cassiopée Mayence va nous rejoindre accompagnée du réalisateur Thierry Petit, mais également de David Mora et Elodie Frank, une grande spéciale qui vous attend. Jean-Jacques Hanau également sera aujourd'hui notre invité exceptionnel. On va parler de Notre-Dame brûle, de ses projets, de ses aspirations, de ses envies au cinéma. Tout va y passer avec donc Jean-Jacques Hanau. Et puis en fin d'émission, c'est Fabien Wolfrom, il joue Louis Guinaud. On va parler évidemment de Louis dans Ici tout commence, mais de ses projets, de Bardo et de toutes ses envies. Fabien Wolfrom sera notre invité en fin d'émission. Et en exclusivité podcast aujourd'hui, nous parlerons également de Caro Nostra, qui sera donc diffusée à partir de vendredi soir sur la plateforme France.tv. À cette occasion, le réalisateur Antoine Bess sera notre invité pour en parler et nous présenter donc cette nouvelle création France.tv qui vous sera proposée. On va tout de suite donc accueillir Samuel Alain Bitbol tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé consacré à un si grand soleil avec Samuel Alain Bitbol qui a fait son arrivée dans la série depuis maintenant quelques mois. Il est avec nous, il incarne à nouveau le rôle de Rémi, puisque c'était celui qu'il incarnait aussi dans Plus belle la vie. Merci d'être avec nous, Samuel.
Ben moi je suis très honoré d'être avec vous aussi, donc je suis très ravi et heureux surtout.
Un si grand soleil, une belle expérience, dis-moi encore, et surtout que là, tu tournes beaucoup avec des animaux que tu aimes particulièrement. Les chevaux.
C'est ça, oui, les chevaux, oui. C'est vrai que je tourne beaucoup avec des chevaux. Alors, je suis avec Noémie aussi, qui m'aide beaucoup. Donc forcément, ça aide. Et à chaque fois, dès qu'il y a des petits trucs comme ça, bah, elle est là avec moi, quoi. Et ça, je suis ravi parce que un si grand soleil, il m'a rappelé pour rejouer encore un Rémi, donc Rémi, sur un si grand soleil. Et du coup, il m'a rappelé parce que je jouais sur une scène. Sur un incendie, justement.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle ?
Beaucoup de choses, surtout de la joie, surtout plein d'émotions.
Ça t'a permis de laisser passer plusieurs palettes d'émotions différentes, justement, là ?
Beaucoup, ouais, beaucoup, ouais.
Tu as la sensation, quand même, de rentrer dans la cour des grands. J'irai au bout de mes rêves, meurtre en pays Qatar, plus belle la vie, un si grand soleil. Franchement, c'est le bonheur, tous ces rôles qui s'ouvrent à toi. Mention particulière, évidemment, pas l'oublier, parce que c'est là qu'on t'a découvert, quand même, aussi.
Moi aussi, ouais, c'est vrai. Là où tu as raison, là je suis arrivé devant la cour des grands, ça me touche quoi, parce qu'en fait, en fin de compte, c'est enfin quoi, enfin.
C'était un rêve, ouais. Tout petit, de jouer, de faire la comédie, de jouer avec les caméras.
Ah oui, vraiment, c'est mon rêve, là c'est en train de se réaliser en fait.
Quel rôle tu rêverais d'incarner, Samuel ?
Moi, c'est plein d'autres rôles, à vrai dire.
Comme un truand, un brigand, moi, un cuisinier.
Moi, ça m'est égal en fait, tant que je suis l'acteur.
Et que tu t'amuses.
Et que je m'amuse. Et que je donne beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Et que je donne beaucoup d'émotion aux fans. Pour moi, ça me fait plaisir. Vraiment de jouer pour eux.
Quelles sont tes plus belles rencontres dans le métier ? Je sais que tu as eu beaucoup de belles émotions à jouer avec Camille Lou notamment. Dans J'irai au bout de mes rêves. Mais j'ai l'impression que tu as fait des très très belles rencontres qui resteront marquées pour toi.
Bah déjà c'est dans J'irai au bout de mes rêves déjà. Parce que c'est vrai que J'irai au bout de mes rêves ça m'a permis de me relever. Parce que c'est là avec Stéphanie Pienanka, c'est vrai que qu'est-ce que je l'aime cette réalisatrice. Parce que c'est vraiment le Nirvana, quoi. J'ai tourné avec, même pas, je veux pas dire le Nirvana, je veux dire carrément et vraiment. Et je suis très touché par elle parce que c'est vraiment une belle réalisatrice. Et après je veux te dire vraiment, il est sublime, quoi. J'ai pas eu de mot à dire, il est au top.
Ça fait partie de tes plus belles rencontres ?
Oui, vraiment, de mes plus belles rencontres. Elle, et aussi, surtout, j'ai pas oublié, Camilo, aussi, Guillaume de Donkey Deck et Christine Reali.
Eh ben, non, du beau monde. Rémi revient dans un si grand soleil. Dans quelles conditions ? Qu'est-ce que tu peux nous dire, sans nous en dire trop ?
Alors, déjà pour commencer, là, je reviens sur un si grand soleil. Apparemment, ils m'ont fait revenir parce que apparemment je dois jouer une scène. La scène, c'est l'incendie. Comme ça, je te dis pas trop.
Ouais. C'est un incendie qui va impacter plusieurs personnages.
Je pense, oui.
Bon, Samuel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ?
Beaucoup de joie, surtout la santé. Des beaux rôles que je peux tourner beaucoup. Il y a juste un truc, par contre, que je voudrais dire sur l'interview, que j'aimerais bien qu'ils écoutent les filles. J'aimerais bien avoir une copine.
Voilà, bon, ça c'est fait. Bon, un si grand soleil, est-ce que pour terminer, est-ce que t'as d'autres projets ? Est-ce que t'as tourné des choses qui vont être diffusées bientôt ? Ou est-ce que t'es en pourparler sur peut-être d'autres projets futurs ?
Beaucoup de choses à faire, donc forcément oui, j'ai un rôle que je vais peut-être jouer avec Tommy Weber, qui m'a écrit, et après je te dis pas plus quoi.
Bon, tu reviendras.
c'est la surprise, quoi.
Exactement. Merci, Samuel. Et à très bientôt.
Et à très bientôt.
Les accusations de Berry, là, contre Tresson, ça donne quoi?
Elles sont crédibles. Tu me conseilles de pas signer, du coup? Mais t'es plus toute seule, maintenant. T'as Ludo pour t'aider.
Vous avez pas autre chose à foutre que de venir m'emmerder, là? J'ai rien à me reprocher, moi.
On verra ça au commissariat.
Ouais, fais gaffe, hein. Si tu te fais griller par Margot...
Elle va te couper en morceaux, hein. Elle va te déglinguer.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Si le temps passe et danse, rendons-nous à l'évidence.
Comme le temps va et file, sommes-nous sur la bonne file.
Effaçons nos repères, prenons les vents contraires.
Mordons chaque instant pour nous sentir vivants.
Osez le voyage,
vivre en décalage.
Voir d'autres rivages au large.
Osez simplement
vivre à contre-temps.
Changer le roman de page.
On appelle Paris le plus bel avenir. Cette vie est une promesse de sourire. On appelle Paris le plus bel avenir. Puisqu'on est libre, puisqu'on veut se l'écrire. Puisqu'on veut se l'écrire.
On file à 100 à l'heure, mettons de la douceur.
Vivons à l'instinct sans connaître la fin.
Marchons vers les salines, puisque les départs fascinent.
Vers la belle aventure, enrichir nos cultures.
Oser l'infortune,
de danser au gré des lunes.
D'être noctambule sans frein.
Oser les merveilles
d'un coucher de soleil
qui coupe un parallèle au loin.
On appelle Paris un plus bel avenir. Cette vie est une promesse de sourire. On appelle Paris un plus bel avenir. Puisqu'on est libre, puisqu'on veut se l'écrire. On appelle Paris un plus bel avenir. Cette vie est une promesse. On appelle Paris un plus bel avenir. Puisqu'on est libre, puisqu'on veut se l'écrire. Puisqu'on veut se l'écrire. Puisqu'on veut se l'écrire.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on démarre notre spécial et doucement rallumé Les Étoiles, le film diffusé cette semaine sur France 2, un magnifique film sur le mal-être des adolescents. Un film très vrai, brillamment interprété avec un casting mais totalement hallucinant. Elodie Frank, David Morin, Marie-Christine Barrault et puis Cassiopée Mayence qui est justement avec nous. Bonjour Cassiopée.
Bonjour.
C'est l'héroïne pour moi du film, elle est incroyable Cassiopée, on va y revenir dans un instant. Thierry Petit, ton réalisateur est également avec nous, bonjour Thierry.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, David, Elodie vont nous rejoindre aussi dans un instant. Où est venue l'idée déjà de cette histoire, du sujet qui a donné le déclic?
C'est Perrine Fontaine qui a amené le sujet. Elle a été elle-même touchée de près par le suicide. Et donc elle a cherché un roman qui pouvait l'aider dans l'écriture. Voilà, elle a travaillé sur le scénario avec Lorraine Delannoy. Et puis au bout de 3 ans, je crois, le projet s'est lancé enfin en chaîne. Il a été validé et donc Perrine est venue vers moi, m'a proposé le sujet et elle m'a fait ce cadeau puisque c'est un sujet magnifique à travailler, quoi. Voilà.
Alors, comment vous avez fait pour trouver Cassiopée?
Alors on procède toujours de la sorte, hein, on fait du casting, donc on rencontre nos castings. Rencontre différentes jeunes filles. On n'a pas rencontré des milliers et des cents non plus, hein, parce que des filles qui ont l'âge, ça court pas les rues, des bonnes actrices, ça court pas les rues, etc. Donc on avait à peu près une dizaine de filles. Et il s'avère que, Cassiopée, elle s'est détachée très facilement du lot, quoi. C'est comme une évidence. C'est sa disponibilité, sa technique pour une jeune fille de son âge, elle est brillante. Ensuite, c'est une belle personne. C'était un élément aussi extrêmement important dans le travail, parce que quand on travaille sur la famille et sur la douleur comme ça dans un film, il faut avoir une vraie équipe technique et une vraie équipe de comédiens qui soient capables de travailler ensemble avec une certaine forme de pudeur, de respect de l'autre et de désir de travailler. Donc voilà. Ensuite, on a fait des essais vraiment très précis et pointus avec elle. Il y a même une petite anecdote parce qu'elle est venue en callback. À l'époque, elle avait des cheveux longs et donc on pensait bien sûr métamorphose entre les deux sœurs, donc raccourcir les cheveux, perruque, pas perruque, enfin, etc. Et on s'est dit, bah voilà, elle a un beau volume de cheveux, donc pour une des deux sœurs, il y en a une qui sera un peu plus longue et l'autre qui aura les cheveux un peu plus tenus. Et malheureusement, il lui est arrivé un petit incident à l'école. Elle s'est retrouvée avec des chewing-gums dans la chevelure et il a fallu couper les cheveux. Donc elle a perdu ça. Donc au callback, on s'est dit, oups. Et puis voilà, grand moment de solitude. Elle était très triste. Et puis voilà.
Ça t'a mis un moment de panique.
Non mais c'est vrai. Surtout sur ce genre de projet là, passer à côté juste pour des cheveux, franchement ça aurait été horrible.
Vous allez voir Cassiopée, dans ce film, tu es juste incroyable. Tu arrives à jouer Camille et Marie, tu arrives à jouer vraiment le yin et le yang avec vraiment cette jumelle un peu solaire, heureuse de vivre, et après cette jumelle voilà, qui a quand même un mal-être fermé. Et c'est toi qui incarnes les deux. Donc il faut bien le dire, parce qu'il y a des gens qui vont vraiment croire que c'est des jumelles qui incarnent le rôle. Ça, c'est sûr et certain. Comment t'as fait pour faire ça? Comment tu t'y es préparé?
Déjà, j'ai beaucoup travaillé avec Thierry et Perrine en amont du tournage. Déjà pour créer la psychologie du personnage. Parce que c'est vraiment hyper minutieux comme travail. On a travaillé les démarches, les façons de parler, les façons de se tenir. Ouais, c'est un travail hyper minutieux. Parce que c'est hyper délicat de jouer deux rôles dans un seul film.
Avec des caractères opposés. Mais j'ai trouvé ça mais totalement dingue quand j'ai su que c'était toi qui jouais les deux.
C'est ça, c'est qu'il faut arriver à se différencier. Nous-mêmes, c'est hyper intéressant comme travail. En tout cas, ça m'a beaucoup enrichi.
Ça devait être un sacré challenge.
Oui, oui. Et puis, il y a encore une autre subtilité. C'est-à-dire que de jouer deux sœurs, c'est une chose. Mais là, celle qui reste va subir une évolution liée au fait qu'elle a perdu sa sœur. Et elle va petit à petit commencer à essayer de lui ressembler, de se mettre dans ses chaussures, de se mettre dans ses habits, de s'identifier à elle avant de créer sa propre nouvelle identité. Donc, en réalité, elle joue les deux sœurs, mais une sœur qui va avoir une trajectoire qui se résume à une année à peine, mais qui est une trajectoire d'une évolution énorme. Donc il y avait ça aussi qu'il fallait intégrer dans son rôle et sa composition.
Parce que je pense que dans son inconscient, elle essaye peut-être justement de se transformer pour peut-être soulager ses parents, je sais pas, mais c'est vraiment un drame qui arrive dans cette famille où tout le monde est heureux. C'est une famille avec ces deux jumelles jusqu'au jour où l'une d'elles se jette d'une falaise avec des poids aux pieds. Et c'est vraiment le truc le pire, horrible qui peut arriver, surtout quand il reste une jumelle. Donc faut que les parents d'une déjà dévastée tiennent le coup en quelque sorte, si c'est possible encore de pouvoir tenir le coup dans ce genre de situation, pour celle qui reste. Donc c'est vraiment l'histoire la plus horrible qui peut arriver, et à la fois un film sur le mal-être adolescent qui est juste dingue. Donc vraiment bravo pour ça encore.
Merci. Non, on avait ce qui est aussi très très dur pour son personnage, c'est de voir le regard des autres, de ses parents en l'occurrence, parce qu'il voit celle qui est partie à travers elle. Donc ça, c'est très compliqué. Mais il y a aussi les copines de collège partout. Donc c'est aussi ça qui est lié à un moment donné à un besoin d'identification, de reprendre les fringues de sa sœur aussi. C'est-à-dire qu'il y a un côté aussi ado qui va être de la provocation. C'est moi aussi, je suis capable de faire comme ma sœur faisait. Et en même temps, je vais aller l'insulter à un moment donné, parce que je vais aller sur la falaise, parce que je vais aller lui dire mes quatre vérités. Elle s'est barrée. Voilà, il y a tout ça, il y a toute cette colère et il y a toutes ces choses-là qui sont habitées. J'ai failli l'adopter. Hein.
Je suis pas étonné. Hein.
J'ai trois garçons, j'ai jamais eu de fille. Là, j'ai failli l'adopter. Quoi.
Mais bon, j'avoue qu'elle nous bouleverse. Franchement, tu étais vraiment bouleversante. Donner la réplique à des gens comme Elodie, comme à David Mora. Je suppose que David, tu l'as vu dans Scène de ménage, Elodie dans Les petits meurtres d'Agatha Christie. Ça devait être un bonheur pour toi.
Ah, c'était génial. Déjà, ne serait-ce que les rencontrer, parce que c'est des personnes géniales. Franchement, travailler avec eux, c'était dingue. Et puis même de passer de l'écran de télé à les voir en vrai et à pouvoir discuter avec eux, de pouvoir jouer, interagir, c'est génial. C'est génial.
Quelle a été la scène la plus dure pour toi?
Je pense les scènes sous-marines.
Ouais.
On est d'accord.
Un risque pour elle, ouais. Ça a été très dur pour elle.
Les scènes sous-marines, ouais, elles ont été sportives.
Merci, qu'à Cassis, l'eau est froide déjà, et on était au mois d'avril. Donc voilà, et c'est pas facile, quoi. Donc il y a les combinaisons, mais pas que, et on peut pas mettre des énormes combinaisons, et puis il fallait rester longtemps dans l'eau. Enfin voilà, malgré toutes les précautions qu'on a pu prendre, ça a été un cauchemar pour elle, ça a été très dur.
Tu as conscience quand même du message que tu vas porter, peut-être à aider les parents à y voir plus clair sur des ados qui leur cachent souvent bien leur jeu, ou tout simplement des ados en mal-être à peut-être mieux vivre. Est-ce que tu as conscience de porter ce message à travers ce film ?
Je pense que ce film va aider beaucoup de personnes. Je parle aussi en connaissance de cause, vu que j'ai des amis qui sont suicidaires et qui ont perdu certains de leurs proches. Donc j'ai pu aussi discuter avec eux, et c'est vrai que porter ce genre de message, c'est lourd quand même, parce que on parle pas non plus d'un sujet très léger. Si ça peut aider des gens, moi c'est le but premier, d'aider les gens, de faire comprendre aussi parfois, même si c'est pas complètement totalement possible de comprendre, de faire passer ce message là, c'est une grande responsabilité, et j'en suis très fière en tout cas.
On va écouter la bande-annonce, et juste après on se retrouve avec David Mora et Elodie Frank qui nous rejoignent. Merci à vous deux.
Merci à vous, grand plaisir.
Merci beaucoup.
L'enquête a exclu toute intervention d'une tierce personne dans le décès de Marie.
Alors pourquoi ?
C'est terrible, mais c'est son choix.
On était les jumelles. Aujourd'hui, je suis qui, moi ?
Allez, faut se forcer. C'est ça que tu proposes ? On n'essaye pas de comprendre comment on en est arrivé là.
Mais il y a des milliards de raisons pour lesquelles on en est arrivé là.
Forcément, elle t'a parlé. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'est-ce que tu lui as fait ?
Non ! Combien de temps tu vas nous punir ? On dort plus ensemble ! Camille s'est réfugiée chez sa grand-mère. Notre famille est en train d'exploser. Tu crois que c'est ce que Marie aurait voulu ?
Remonter à la surface et doucement rallumer les étoiles. Inédit, mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Ce programme est disponible en audio-description.
Et on continue notre spécial Et doucement rallumer les étoiles qui va être diffusé donc cette semaine sur France 2. On continue à en parler en déroulant tout doucement cette belle histoire, cette magnifique histoire et cette dure histoire. Par la même occasion avec Elodie Frank et David Mora qui nous rejoignent, les parents de la petite Marie. Bonjour à tous les deux.
Bonsoir.
Bonjour.
Merci d'être là. On vient de planter un peu le décor justement avec Thierry Petit, avec Cassiopée Mayence. Histoire très difficile, puisque là on parle quand même du suicide d'une fille de 15 ans qui laisse sa jumelle et ses parents dans un désarroi absolument total. Comment on peut arriver à se préparer à un rôle comme ça, tous les deux ? Parce que alors là, moi qui est habitué à te voir, Elodie, dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, vive là, waouh.
Alors là, j'ai regardé des vidéos de témoignages de maman. J'ai appelé une association qui s'appelle Le Phare. J'ai essayé de me plonger là-dedans. L'époque était bien glauque. On commençait à savoir que le service de psychiatrie des ados explosait. Donc c'était un sujet de société qui m'intéressait. Et voilà, dans lequel je me suis plongée complètement. Voilà, donc c'est un nouveau personnage, de nouvelles énergies, nouvelles façons de parler. Voilà, c'est comme ça que je me suis préparée.
Et toi, David ? Parce que là, on est loin de Fabien, évidemment, aussi, hein, de scène de ménage.
C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Moi, c'est surtout voilà, le scénario écrit par Perrine Fontaine et du coup, sa co-autrice
Lorraine
Delannoy, voilà, qui du coup m'a scotché, en fait, parce que voilà, ce destin tragique, c'était tellement fort et intéressant à jouer que voilà, on se laisse porter par chaque scène. Chaque scène est bouleversante.
Scénario dingue, l'intensité est dingue. Dès le début, on plonge dans une famille heureuse, tout va bien, c'est le bonheur absolu avec ses deux jumelles. Et puis là, vraiment, c'est la tragédie. On sent vraiment que tout le monde s'effondre, tout le monde de cette famille s'effondre autour d'eux.
C'est ça, la famille explose. Ce qui est intéressant, finalement, c'est de voir les rapports qu'ils entretiennent les uns entre les autres, que ce soit Laure et sa mère. Elles ont aussi un passif compliqué.
Incarné par la magnifique Marie-Christine Barrault.
Ouais. Qui a une scène d'ailleurs dantesque dans le téléfilm. Voilà, et voir en fait chacun de ces personnages voilà se reconstruire à sa manière, à sa vitesse. C'était très fort à jouer, ouais.
Comment on décompresse ce soir ? Quand on vit des journées de tournage comme ça, aussi intenses ?
Moi, je peux le dire que moi, ça m'a pas du tout convenu ce Covid, parce qu'on était à Cassis et que tout était fermé et qu'on était obligé d'être chacun chez soi et qu'on peut pas aller au resto et qu'on est seul face à sa télé. David, il a adoré, moi j'ai détesté.
Non, en fait, c'était une période effectivement où on était content de travailler parce que rien nous assurait que ça allait vraiment se faire, parce que voilà, les conditions sanitaires, c'était toujours un peu variable, hein. Mais moi, ce que je remarquais quand j'étais devant la télé le soir, parfois devant, enfin, dans mon petit appart,
j'avais besoin de regarder de la comédie.
Non, mais en fait, même si entre les prises, on peut rigoler. Enfin voilà, y a pas une ambiance très. Enfin voilà, on n'est pas plombé non plus hors scène. Mais par contre, le fait d'avoir pleuré toute la journée. Bah, on a un petit truc de voilà, je pense que comme une journée où en comédie on a beaucoup on joue beaucoup le rire, et bah à l'inverse quand on joue beaucoup les larmes, putain, ça on sent la fatigue du et puis une espèce de pas de dépression parce que c'était pas le cas, mais il y a quelque chose, on sent que c'est pas anodin quoi, qu'on a joué des choses, des scènes qu'on aurait pu vivre nous-mêmes et que du coup ça a un petit impact.
On en ressort pas indemne, oui. De toute façon un tournage comme ça c'est pas possible.
Ben moi, je croyais qu'on pouvait comme ça prendre de la distance par rapport au rôle et puis ne pas se laisser gagner par le rôle. Mais je pense qu'il faut pouvoir décompresser justement et que là, il y avait une solitude qui était double peine par rapport au rôle à interpréter et puis de se poser la question tous les jours de comment je vais dire ça. J'ai perdu mon enfant. Qu'est-ce que ça me fait vraiment ? Ben moi, ça a commencé à pas mal m'entamer, ouais. Voilà, mais après...
Tenir le coup pour celle qui reste, parce qu'il en reste une sur les deux quand même. Il faut arriver, elle qui est déjà, qui perd sa jumelle et qui voit ses parents dans cet état-là. Enfin, c'est juste un scénario catastrophe, là.
Et puis, c'est compliqué pour nous, parents, de s'occuper d'elle, parce qu'on est encore sous le choc, en fait. Donc, elle-même, à un moment donné... va aller se réfugier chez sa grand-mère parce que elle voit bien qu'on n'est plus vraiment là quoi. En fait, chacun essaye de penser à sa douleur alors que finalement elle est là et il faudrait plus qu'on s'en occupe quoi. Mais
ça filme terriblement de société hein, parce qu'aujourd'hui le mal-être des ados, on en parle de plus en plus, c'est de plus en plus présent. Le Covid en plus a encore amplifié le phénomène, mais c'est très très d'actualité là.
Alors si ça peut permettre aux gens d'oser en parler, et c'est ça qu'il faut en fait, dès le moment où on en parle, c'est déjà un pas vers la guérison, mais simplement il y a la honte de penser ça, la peine qu'on peut faire à ceux qui vous entourent, enfin tout ça empêche la parole, peut vraiment avoir de raisons objectives, enfin pas y croire soi-même. Et alors là c'est vrai que si ça peut délier les langues ou si... Moi, l'effet que ça m'a fait personnellement, c'est de me dire « Oh là là, t'es attentive à qui sont tes enfants et à ce qu'ils ressentent en ce moment. T'es pas un petit peu trop en tournage et tout. » Voilà, donc vu que ça a fait ça sur moi, je pense que ça peut faire ça aussi sur les autres gens. On doit être conscient de qui sont vraiment nos enfants et ce qu'ils traversent et apprendre à les questionner.
Plus attentif.
Ouais, apprendre à les questionner, à être attentif à eux.
Il faut, voilà, si ça peut servir effectivement que voilà, les parents peut-être aient des clés pour mieux comprendre des signes qui pourraient montrer peut-être une dépression, un mal-être, quelque chose.
Les enfants sont très forts pour cacher, donc il ne faut pas culpabiliser les parents. Le film aussi le montre qu'il n'y a pas forcément de signes avant-coureurs. Bon, il s'avère que les parents, ils n'ont pas lu les textes, ou bien ils auraient pu lire les textes en se disant « Oh, qu'elle écrit bien, cette poétesse, alors que c'était tragique. » Bon, tous les enfants qui écrivent des choses noires ne se suicident pas, donc non, il ne faut pas culpabiliser les parents. Mais on peut essayer, peut-être, ou de donner la possibilité à l'enfant d'aller voir quelqu'un. Bon.
Oui, puis c'est horrible de se dire que voilà, son enfant, finalement, a des pensées suicidaires et pour protéger ses parents, va donner le change, va montrer une belle
facette.
Une autre facette, être très solaire, très pétillant, très, très, très vivante. Et du coup, on tombe d'autant plus haut puisqu'on ne s'attend pas du tout à ça. Alors effectivement, peut-être, ça veut dire qu'il faut fouiller dans les affaires de ses enfants pour aller chercher des indices. Mais peut-être que parfois, ça peut aider...
Basculer dans la paranoïa, quand même, aussi.
Ouais, ouais. Non, bien sûr, ouais. Moi, ça m'a un peu rendu parano, en fait. Et mon fils n'a que 10 ans, mais... quand on y est revenu en disant « to be or not to be », j'ai fait « Non ! No question, c'est to be ! Il n'y a pas de not to be
!» Doucement rallumer les étoiles, c'est donc cette semaine sur France 2. Ne le manquez pas, un magnifique téléfilm de Thierry Petit avec Cassiopée Mayence qui vous entoure, Marie-Christine Barrault, un casting incroyable autour de vous. Merci à tous les deux d'être passés nous voir.
Merci beaucoup, merci.
Merci Alain.
Pour toi mon amour.
Oh merci. C'est pas mon anniversaire, c'est celui des...
Du plus beau jour de ma vie, la naissance des filles. Et c'est toi qui m'as fait ce cadeau.
Attends, laisse-moi deviner, le carburateur ?
Ouais.
Donc tu frottes bien sous les ongles, tu m'enlèves ce pull tout taché et tu te fais beau pour la fête. Allez.
Yes, ma'am. Hey, bon anniversaire. Attends, c'est laquelle déjà, elle?
Très drôle. Tu vas nous le faire jusqu'à quel âge?
C'est pas difficile. La plus gourmande, c'est Camille.
Et la marmotte, elle dort encore?
Ouais, elle s'est couchée tard. Je vais me doucher.
Ah, salut Paul. Laisse-moi deviner. Marie a encore laissé son vélo contre ta barrière.
Madame le maire est avec moi et...
Bonjour. On peut entrer? C'est un randonneur qui a appelé les secours. Les plongeurs de la gendarmerie ont pu remonter son corps.
L'invité d'honneur de la semaine.
Après quelques années, il est de retour dans Chut, on écoute la télé. Quel bonheur de recevoir pour la deuxième fois Jean-Jacques Hano, qui est avec nous après Le Dernier Loup. C'est en 2015. Jean-Jacques nous fait le plaisir d'être de retour parmi nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors l'année dernière, on a eu le droit évidemment à ce film, à grand spectacle sur Notre-Dame. Notre-Dame brûle. C'est une nécessité, c'est une envie viscérale de rendre hommage eh bien, à tous ceux qui ont lutté pour essayer de sauver ce qui était sauvable finalement de Notre-Dame.
Notre-Dame est un bâtiment qui a beaucoup compté pour moi quand j'étais enfant. J'habitais la banlieue et ma maman m'emmenait tous les week-ends et parfois même le jeudi à Paris pour que je voie les musées, etc. Et on débarquait tout le temps à une station de train qui s'appelle Paris-Pont-Saint-Michel. Et quand on montait les marches, la première chose que je pouvais voir en étant petit, c'était cette cathédrale merveilleuse. C'était un bâtiment sacré chez moi. On n'était pas du tout religieux, mais le fait de rentrer dans cet endroit où il y avait généralement l'organiste qui répétait aux grandes orgues, le parfum de l'encens, les bougies, et puis cette merveilleuse architecture. Donc si vous voulez, j'ai toujours été moi assez bouleversé, alors que je ne suis pas du tout religieux, je ne suis pas croyant, mais je suis croyant en la beauté, je suis croyant en la méditation, je suis croyant, j'aime la foi des autres, voilà, et j'aime les lieux sacrés, quel qu'il soit. Mais évidemment, je suis de culture française, donc de culture catholique. J'ai été baptisé. J'ai toujours une émotion quand je rentre dans une église ou d'une petite chapelle, parce que ce sont des lieux importants, c'est des lieux de rassemblement. S'il y avait eu un incendie dans un supermarché, je suis pas sûr que j'aurais fait le film. Mais là, vous savez, c'est un bâtiment symbolique, mythique. C'est le bâtiment le plus visité du monde. Hein. C'est beaucoup plus que la Tour Eiffel et à peu près à l'égalité avec la Cité Interdite. Donc, si vous voulez, quand ce bâtiment a subi cet incendie, c'est un lieu, je me suis aperçu, qui était un lieu symbolique de la culture occidentale et du coup, un lieu symbolique de l'Occident. Et même les gens qui n'aiment pas forcément l'Occident, ce qui est le cas par exemple des Chinois, moi j'ai fait un film en Chine que j'ai beaucoup aimé, mes amis chinois m'ont raconté que beaucoup de leurs amis, qui n'étaient pas du tout catholiques, étaient en larmes. Parce que c'est comme si je sais pas, c'est une bombe qui tombait sur les pyramides. C'est un symbole de l'humanité. Et c'est pour ça que cet incendie a eu un tel retentissement. Et la raison pour laquelle j'ai fait le film, c'est que je me suis aperçu en lisant de la documentation que personne ne savait la réalité de ce qui s'était passé. En fait, c'est un miracle que ça a été sauvé, grâce évidemment à l'extrême compétence des pompiers, leur dévouement. Mais il y avait dans tout ça un véritable film à suspense. Vous savez que la France est la première destination touristique du monde, que Paris est la première destination touristique parmi toutes les villes, et que tout le monde va à Notre-Dame. Tout le monde ne va pas à la Tour Eiffel, parce que il faut payer d'abord. Notre-Dame, c'est gratuit. Et puis, il y a ça, c'est dans le plus beau quartier, un des plus beaux quartiers d'Europe, finalement. C'est très charmant, cette cathédrale construite au XIIe siècle sur cette île ravissante, entourée d'arbres fleuris. Donc, si vous voulez, les gens viennent visiter ça. Et donc, il y a eu une douleur de tous. Et ce qui a émerveillé tout le monde, c'est le travail des pompiers. Et moi, quand j'ai lu la documentation, quand j'ai rencontré les pompiers, j'ai vu que j'avais là un véritable scénario émouvant, tendu au plan du suspense, alors que tout le monde connaît la fin. Mais ça n'a pas d'importance. Comment on est arrivé à sauver la cathédrale, c'est ce que raconte le film, malgré l'incroyable accumulation de faux pas, d'erreurs, de difficultés de tous ordres. Et ça m'a passionné. Et aussi de curiosité. Moi, quand j'ai lu la documentation qui me venait, soit des pompiers, soit de l'archevêché, etc., au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait tant d'emmerdes. Non mais attendez, mais vous dites c'est incroyable, mais qu'est-ce que c'est que ces dysfonctionnements? Mais du coup, c'est très très bons éléments Parce que quand vous avez... C'est un peu une course-poursuite, en fait. Oui, vous avez un grand corps malade, j'ai envie de dire, qui est celle d'une star internationale, Notre-Dame de Paris, qui est mon héroïne, en vérité. Et puis, les bons docteurs qui n'arrivent pas à venir. D'abord, ils ne sont pas prévenus. Ensuite, le matériel ne peut pas passer parce que Paris est Paris, les Parisiens sont les Parisiens. Et les Parisiens, ils préfèrent bloquer une voiture de SAMU où il y a un enfant malade pour faire un selfie, pour envoyer à leur grand-mère, d'eux-mêmes devant la cathédrale qui fume. Donc, si vous voulez, il y a tous ces éléments. Il y a aussi les travaux pour les Olympiques, l'incompétence hallucinante des services de la mairie. Donc, si vous voulez, tout ça s'accumule. On se dit, mais c'est pas possible quand même que dans une des grandes capitales du monde, il y ait autant de dysfonctionnement. Eh ben, si.
Et finalement, ça crée des éléments scénaristiques qui sont c'est du pain béni, quoi.
Et bien entendu, si vous voulez, un film, c'est toujours de s'identifier avec un problème. Et qui fait que je me suis moins régalé à faire ce film. Techniquement, c'était très gratifiant. En plus, ça, si vous voulez, le feu, c'est dangereux. C'est comme les animaux sauvages. C'est beau. Même les pompiers, vous voyez, les pompiers sont souvent de faction en faction à l'opéra, par exemple. Et eux-mêmes me disaient, c'est tragique de le dire, c'était effrayant, mais c'était beau. Ben oui, parce que si vous voulez... Encore une fois,
c'est fascinant, il y a une espèce de fascination, oui.
Ben oui, et encore une fois, quand vous avez une structure métallique d'un supermarché qui brûle, bon, ça fait des images de feu. Là, on voit beaucoup d'images d'immeubles détruits. Bon, c'est d'immeubles civils, faits dans les années 60, en béton. Là, ça a été l'endroit où Napoléon a été couronné, ça a été l'endroit où Saint-Louis a déposé la relique la plus précieuse de l'histoire de la chrétienté. Donc c'est autre chose, ça prend une autre dimension.
Notre-Dame brûle, vous pouvez le voir en VOD, évidemment, et en DVD, le film est sorti l'année dernière. Et on va écouter un petit extrait, on va revenir un peu sur les techniques, la façon de faire le film, parce qu'il a fallu faire beaucoup de reconstitutions. J'imagine, il y a des images absolument époustouflantes qui nous donnent vraiment l'impression de revivre ce drame dans le film. On va y revenir juste après, mais on écoute tout de suite un extrait.
Activation posture immédiate, anticipation feu Notre-Dame.
Notre-Dame brûle. Ça va les partir de partout, les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir deux feux à gérer.
Il va falloir vous battre à quelques-uns. Paris est bloqué.
Feu de toiture. Poursuivons reconnaissance.
Poursuivons reconnaissance, c'est pas bon.
Ça va? Alors on y va.
Ça veut dire désastre annoncé.
Avec quelques garros, je crois qu'on peut y arriver, mon général.
Avec mes hommes, on se porte volontaire.
On va demander des hommes supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort.
Voilà, VOD, DVD, Notre-Dame brûle, n'hésitez pas, et bien en tout cas, à aller découvrir ce film, un film hommage à tous ceux qui ont lutté, en tout cas pour arriver à garder ce qu'il était possible de garder de Notre-Dame, et qui a fait qu'aujourd'hui, bien, en 5 ans, elle va renaître, en tout cas de ses cendres, c'est le cas de le dire. Les techniques, les images sont époustouflantes, Jean-Jacques, comment on s'y prend pour arriver à reconstituer tout ça? J'imagine qu'il y a beaucoup d'effets numériques, mais il y a dû y avoir aussi des scènes assez difficiles à mettre en boîte.
Ben, si vous voulez, le fait que ce soit effectivement très spectaculaire fait que les gens pensent que c'est essentiellement fait en numérique. Ça m'énerve assez parce que en fait, tout a été refait à l'identique en studio avec du vrai feu, des vraies flammes, des décors qu'on va vraiment brûler, qu'on a reconstitué à la même dimension, avec les mêmes pierres. On a utilisé des sculpteurs pour refaire les statues à l'identique. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, le problème, c'est que je vois mes anciens films. Si c'était des films contemporains, on penserait que c'était des films faits en numérique. Parce que on ne pourrait pas imaginer que dans un film comme Stalingrad, Enemy at the Gates, que je faisais 90 vraies explosions sur chaque plan. On ne pourrait pas imaginer que je fais cracher des avions pour faire dans une cascade aérienne. Donc aujourd'hui, le monde du cinéma est devenu tellement artificiel et bidon que quand on fait du vrai, les gens pensent que c'est bidon. Vous savez, un film comme L'Ours que j'ai été revoir à Copenhague la semaine dernière, Mais je me disais, en regardant le film, il doit y avoir des gens qui doivent penser que j'ai fait ça en numérique. Parce que les animaux ont tellement fait des choses extraordinaires qu'on se dit, mais c'est pas possible, les animaux font pas ça. Mais si, ils font ça. Et que donc, Notre-Dame, ce qui est en numérique, ce sont les choses qu'on ne voit pas, c'est les bords-cadres. Donc les deux extrémités où l'œil ne va jamais, je les fais reconstituer en 3D. Ça, oui, bien sûr. Mais tout le cœur du drame, là où sont les pompiers, là où il y a ces immenses flammes, les flammes, c'est du vrai. Et les pompiers sont véritablement à 80 cm de feu à 800 degrés. C'est un peu désespérant aujourd'hui que on ne croit plus qu'il y ait des plateaux de cinéma où on reconstruit encore des beffrois de cathédrales. Ce qu'on gagne là-dessus, c'est pas non seulement le visuel est mieux, mais c'est surtout le jeu. Parce que quand vous faites la même scène sur fond bleu, vous allez avoir un acteur qui n'a jamais senti le feu, qui n'a jamais entendu le vrombissement monstrueux, la rage du feu. On va lui dire, alors tu vois, le bâton que tu tiens, ben, c'est le jet des pompiers. C'est... Alors il y a de la pression, alors tu te reculeras un tout petit peu quand on te dira 1. Et tu fais semblant d'ouvrir. Alors là, c'est de l'air qui va sortir, mais en vrai, c'est de l'eau. Et puis devant toi, c'est un feu, c'est pas un fond bleu. Mais alors l'acteur va faire semblant. Mais du coup, l'émotion ne va pas passer. Parce que...
On perd en authenticité.
Et ça perd tout simplement en réalisme, en émotion. Le public est très subtil. Il ne sait pas trop, le public, pourquoi il n'accroche pas à l'histoire. Il n'accroche pas parce qu'il y a des éléments qui lui disent que c'est bidon. Mais quand le cœur, les yeux, le bide vous dit « mais ça sent le vrai », et là, vous accrochez. Donc, c'est complètement différent. Je fais confiance à l'émotion des acteurs qui va se transmettre au spectateur.
Ça, c'est chouette. Et c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui, on a affaire à du vrai cinéma, du vrai spectacle, parce que c'est ça aussi. On a besoin de vrais spectacles au cinéma. Et c'est ce genre de film, évidemment, qui nous donne envie et qui va donner envie, en tout cas, qui redonne envie d'aller au cinéma. Et ça, c'est chouette. Jean-Jacques, prochain projet. J'imagine que ça fourmille déjà.
Bah écoutez, j'ai la chance depuis des années et des années d'avoir au moins, de recevoir au moins un livre par semaine et deux scénarios par semaine de différents pays, que ce soit la Turquie, la Chine, l'Islande, ce qui m'arrive, le Sénégal, les États-Unis évidemment. Là, je mène de front deux projets anciens que j'avais signés il y a quelques années. Et un projet nouveau sur lequel je passe beaucoup de temps, mais dont je ne peux pas vous parler parce qu'il y a encore des problèmes de signature à Los Angeles, et ce n'est pas des problèmes de financement, ce sont des problèmes de liberté de droit. Donc je ne peux pas encore en parler, je pense que quasiment les jours qui viennent, je vais pouvoir le faire.
Pour la télé, ça c'est des choses qui vous donnent envie, comme l'affaire Harry Kéber, d'aller réaliser aussi pour la télé?
Alors écoutez, l'affaire Harry Kéber m'avait beaucoup plu parce que le roman de Joël Ticker, je l'avais trouvé passionnant. C'est ce qu'on appelle le page-turner, un bouquin dont on tourne les pages avec avidité. En plus, lui est un homme absolument délicieux et j'avais adoré son roman. Et je voulais depuis longtemps tâter à la télé parce que je voyais bien depuis une quinzaine d'années que le cinéma était en train de se rétrécir. En tout cas au plan des histoires, le cinéma a tendance à en faire de plus en plus dans la cascade, dans les explosions, des choses comme ça, et de moins en moins sur les problèmes du cœur, j'ai envie de dire. Je savais que c'était des méthodes de tournage différentes, j'ai voulu essayer. Ben pour moi c'était pas tellement différent, je parlais du film. La différence c'est qu'au lieu de faire une heure et demie ou deux heures de spectacle, j'en ai fait neuf, mais ça m'a plu beaucoup. Néanmoins, si vous voulez, la vraie grande différence, c'est que quand tous les films que j'ai faits pour le cinéma sont passés à la télévision, ont une seconde vie, plus qu'une seconde, parfois, si vous voulez, la première vie, en tout cas du nombre de spectateurs, c'est clairement à la télévision. Le mot spectacle m'a beaucoup été reproché. J'ai toujours milité pour ce cinéma-là parce que c'est le cinéma que j'aimais quand j'étais à l'école de cinéma et avant l'école de cinéma aussi. Moi, c'était David Lean, c'était Kurosawa, c'était Kubrick qui m'intéressait. Puis il y a d'autres cinéastes que je trouvais très intéressants, mais j'ai pas envie de faire ces films-là. Et j'ai été assez bousculé par non seulement la critique française, mais mes confrères m'ont reproché de faire des films de divertissement. Donc j'étais une espèce de laboureur de la médiocrité. Parce qu'un des trucs chics en France, c'est de faire un bid honorable, un insuccès bien reçu par Libération et Télérama. Donc ça, si vous voulez, c'est le chic. Faire un film qui trouve son public, c'est pas terrible. Il vaut mieux éviter, parce que là, vous n'êtes plus un artiste. Vous voyez, par exemple, on m'a jamais cité comme auteur. Or, j'écris mes scénarios, je les tourne en toute liberté, je fais mon casting, j'ai la main mise sur le film du début à la fin, ce qui est la définition de l'auteur, mais jamais on imaginerait me dire que je suis un film d'auteur. Pourquoi ? Parce qu'un film qui marche n'est pas un film d'auteur.
Ça, c'est bien dit. Non, mais c'est vrai. C'est tellement vrai, tout ça. Merci beaucoup, Jean-Jacques, en tout cas, d'avoir passé ces minutes avec nous. On a appris plein de choses en même temps. C'est passionnant, et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite, en tout cas pour les prochains projets.
Mais bien volontiers, écoutez, moi, c'est un des plaisirs de ma vie de venir dans les régions de mon pays et de rencontrer les gens, d'échanger avec eux, de passer des soirées, à boire un petit coup et à danser sur la piste avec des petites lumières qui clignotent.
Merci beaucoup et à bientôt.
À bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur plateforme va s'adresser à France.tv cette semaine avec la mise en ligne d'une toute nouvelle série originale intitulée Caro Nostra. Pour les fidèles du genre, ça sera pas sans rappeler les séries un peu comme Twilight ou pour les plus anciens, Buffy contre les vampires. Alors on va pouvoir suivre les aventures d'Antigone, de Vadim, de Yasmine et de plein d'autres dans cette série. On va parler d'ogres, mais pas que, d'amour évidemment aussi, avec le réalisateur Antoine Besse qui est avec nous. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va pas souvent sur ce terrain-là en France.
Ouais, c'est vrai, c'était une belle initiative qu'a voulu développer France Télé / et Elephant. Et quand ils sont venus me chercher, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce projet, en fait, c'était d'aller chercher un mélange de genres, et notamment d'aller chercher le genre en télé, quoi. C'est pas un terrain très privilégié par la télé, c'est super intéressant de s'y aventurer.
Alors même si les ogres font partie de l'histoire de départ, on parle de plein de thèmes différents, en fait, hein, dans cette série. On parle d'amour impossible, on parle de plein de choses. Comment est né le projet, déjà ?
Alors à la base, en fait, il avait été écrit par El Diablo et son collègue Jean-Pierre Pascaux, si je dis pas de bêtises.
Ouais. Iris de GC.
Tout à fait. J'allais la citer. En fait, Iris est arrivée dans une deuxième partie pour prendre la série suite à des demandes des producteurs Nathalie Madjar et Cyril Dufresne, qui ont fait un super boulot de producteur artistique. C'est eux qui ont proposé, en fait, de développer la série d'El Diablo sous une forme de fresque familiale. En fait, ils ont vraiment accompagné le projet. Et moi, quand ils sont venus me chercher, c'était sur la base d'une Bible. Il n'y avait pas encore tous les épisodes. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Et puis après, voilà, moi, j'ai donné mon avis. J'ai proposé de revoir les textes avec les auteurs. Ce qu'on a fait, on a fait une room, en fait, pendant presque deux mois, de 9h à 19h tous les jours. On cherchait à rajouter des enjeux. On a rajouté notamment toute la partie de l'Oxitor. Enfin, et puis moi, j'ai essayé d'apporter mon univers visuel aussi, d'essayer de parler de comment je voyais les déboratios, c'est-à-dire les repas, en fait, les festins que font les ogres, de trouver la bonne direction artistique aussi des costumes. Et on a tout bossé ensemble pour, en fait, l'intégrer directement dans l'écrit. Histoire que les textes qui arrivent, en fait, au tournage, vu que c'est une petite économie et qu'on ait peu de temps de tournage, soient le plus précis possible pour tous les chefs de poste, en fait.
Pour les fans de BD, parce que nous, on est dans une région très attachée à la bande dessinée, hein, évidemment, hein, dans la Nouvelle-Aquitaine avec Angoulême. Et il faut savoir que pour les fans de BD, c'était un homme de goût à la base. C'était une bande dessinée, hein, cette histoire. Et là, c'est une adaptation libre. C'est-à-dire, on a pris quelques libertés avec l'histoire originale, évidemment. De la BD, c'est pas du copier-coller.
Ah, c'est clairement une adaptation très très libre. On a même plus grand chose à voir avec l'histoire originale au final.
Un beau casting aussi.
Un très très beau casting. J'ai eu la chance de travailler avec des acteurs formidables et je tiens à les féliciter encore, que ce soit les jeunes, la jeune génération, Abraham, Ella, Sonia, Ike, Grégoire, Tom, enfin bref, je pourrais tous les citer. Et surtout l'ancienne génération, que ce soit Annie Mercier, qui est une immense comédienne de théâtre. Et puis on a eu des guests incroyables comme Liliane Rovert.
Ah oui.
C'était un magnifique projet de comédien, et d'ailleurs c'est le truc dont je suis le plus fier. Je trouve que ça joue très bien, et c'est ça qui est très très compliqué dans le genre. C'est souvent le jeu pour faire croire à l'histoire, et je trouve qu'ils ont fait un boulot absolument formidable.
Et on fera un petit coucou en même temps, par même occasion, elle était avec nous il y a un petit peu plus d'un an dans notre émission. On pense fort à elle, à l'Ukrainienne Yulia Abyss aussi, qui joue Mélina, et qu'on a bien sûr découvert dans La Revanche des crevettes pailletées, et qu'on retrouve aussi dans cette série Caro Nostra. Antoine, est-ce que l'idée, c'est peut-être d'en faire d'autres épisodes par la suite? Est-ce qu'une saison 2 est déjà un peu sur les rangs? Comment ça se passe?
Je peux pas trop dire grand-chose, mais possiblement.
Bon, ça y travaille un peu, en cas.
Voilà, c'est en route.
Bon, pour ceux qui auraient raté les 5 premières minutes, comment on pourrait définir, comment on pourrait résumer les 5 premières minutes?
L'habit ne fait pas le moine, je dirais ça.
C'est pas mal dit.
Je pense que c'est le meilleur résumé qu'on puisse faire.
Bon, eh ben, il faut pas se fier toujours aux apparences, alors, du coup. On va découvrir ça.
Voilà, exactement. J'en dis pas plus, parce que sinon ça risque de gâcher la scène.
Ben oui, oui, oui. Il y a eu des heures et des heures de maquillage. Comment, sur une série comme ça, on gère aussi le temps qu'il faut?
Alors c'est compliqué, parce qu'on a tourné 200 minutes en 7 semaines, ce qui fait quasiment 6 à 7 minutes par jour. Donc c'est un vrai, vrai gros travail de prépa. Surtout, on a bossé pendant des mois pour préparer cette série. Et en fait, on avait, avec Lola, l'artiste make-up, on avait énormément travaillé sur exactement ce qu'on voulait, comment, on avait tout testé. Donc en soi, il n'y en avait pas forcément pour des heures. Et puis après, on avait aussi une prothésiste incroyable qui avait déjà tout anticipé. Donc disons que ça prenait du temps, évidemment. Mais c'est, vu que tout avait été déjà préparé, conçu, anticipé, on n'a pas perdu tant que ça. Au contraire, c'était même un plaisir de les voir arriver avec tous ces effets qui marchaient. Et puis après, avec Anthony Lestremo, notre directeur de VFX, on savait aussi comment on allait les peaufiner, comment on pouvait les terminer. Donc, s'il y avait un peu de retard, on savait qu'on pouvait terminer après en VFX. Mais en tout cas, voilà, Lola, elle a fait un travail formidable qui je trouve, et les spectateurs nous diront après, mais se ressent vraiment à l'image.
Vous allez pouvoir découvrir donc cette nouvelle création France Télévisions. C'est vendredi à 20h, ça sera mis en ligne, il y aura tous les épisodes d'un coup, et puis à minuit 5, ça sera diffusé sur France 2, et vous allez pouvoir vous plonger dans le quotidien parisien de cette famille d'ogres auquel vous allez très très vite vous attacher, j'en fais le pari. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous. On va se quitter avec la bande-annonce, et puis on se dit rendez-vous pour la saison 2, peut-être. Qui sait?
Avec plaisir, j'espère. On verra. C'est l'éléphant.
Et très très vite. Merci. À bientôt, Antoine.
Très bien, au revoir.
Vous comptiez me mater encore longtemps comme ça?
Ça dépend, t'as combien de temps devant toi?
Antigone et Vadim, c'est bien vos enfants? Ils ont dû vous dire, leur camarade de fac, qu'on a retrouvée morte.
J'en ai pas dormi de la nuit. Je veux vraiment pas ce qu'ils leur trouvent à ces pécous.
Ils s'intéressent trop au bétail.
Vadim, enchanté.
J'aime pas ça. Les histoires d'amour, ça fait toujours des ravages chez nous.
Qu'est-ce qui vous arrive tous en ce moment?
Rien. Ah, rien, papa.
Il y a d'autres ogres à part ta famille?
Je sais pas.
Allez, bougez pas, on revient dans un instant. La fin de l'émission avec Fabien Wolfrom, c'est dans une poignée de secondes. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Toi, t'as rien fait, toi, t'es beau, t'es grand déjà. Tu n'as rien demandé, mais voilà, t'es là. Un matin, tu débarques contre ses deux bras. Elle n'a rien demandé, mais voilà, t'es là. Sûrement que t'étais mal tombée. Évidemment qu'elle a flippé. Mais faudra bien lui pardonner d'avoir laissé son bébé dans d'autres mains pour d'autres jours. Avec du monde autour, peut-être un peu plus de chance, peut-être un peu plus d'amour. Les millions de questions, tu te les poseras. Mais c'est ni à cause d'elle, ni à cause de toi. Toi, ton nom, c'est pupille, mais tu grandiras. Regarde comme tu brilles. Pour un tas de raisons, tu lui en voudras. Mais c'est ni à cause d'elle, ni à cause de toi. Toi, ton nom, c'est pupille, et tu construiras. bien du vélo, tu parleras chinois. Tu auras plein de cadeaux à Noël et tout ça. Tu seras peut-être garde des sceaux, tu te marieras. Qu'il est beau le tableau quand elle pense à toi. Sûrement qu'elle a dû changer, que la vie a continué. Est-ce qu'elle se sera pardonnée d'avoir laissé son bébé dans d'autres mains pour d'autres jours, avec du monde autour, pour un peu plus de chance, pour un peu plus d'amour. Les millions de questions tu te les poseras, mais c'est ni à cause d'elle ni à cause de toi. Toi ton nom c'est pupille, mais tu grandiras. Regarde comme tu brilles. Pour un tas de raisons tu lui en voudras, mais c'est ni à cause d'elle ni à cause de toi. Toi ton nom c'est pupille et tu construiras. Tu construiras ta propre famille. Tu grandiras. Regarde comme tu brilles déjà.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook Chute On Écoute La Télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Ici Tout Commence. Quel bonheur de recevoir Fabien Wolfram, qui est notre invité. Petite visite annuelle, mon cher Fabien.
Voilà, ça me fait plaisir de vous revoir.
Mais franchement, c'est super sympa de t'avoir avec nous. On se fait une petite visite annuelle maintenant, comme ça, pour faire le bilan un peu de cette année. Et dis donc, il paraîtrait que maintenant tu me vouvoies à l'antenne, alors que leur antenne, tu me tapes la bise limite.
Non, mais bien sûr, on se connaît très bien. Je fais semblant de vous voyez parce que c'est le je suis très impressionné de voir Alain en vrai. Du coup, oui, c'est vrai qu'on se tutoie dans la vraie vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Bon, mon cher Fabien, en tout cas, on est tellement heureux de te retrouver tous les soirs. C'est délicieusement, des fois, pervers. Et à la fois, il est délicieusement méchant, des fois machiavélique. Mais on l'aime, notre Louis Guinaud, parce que je crois qu'en fait, bah, tu as eu la façon, des fois, de le faire tourner de façon à ce qu'il soit tellement attachant, finalement, ce Louis.
Je vous remercie grandement de souligner ce point-là. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces flatteries. Je sais qu'il y a une pointe de sincérité dans ce que vous avancez. Et effectivement, j'ai essayé de rendre Louis Guinaud un petit peu moins antipathique, si possible. Ce qui sert, évidemment... le scénario en permettant au scénariste de le rendre encore plus machiavélique, parce que évidemment quand tu es sympathique tu es encore plus un arnaqueur.
Mais quand il devient gentil, on se demande même mais qu'est-ce qu'il prépare? C'est louche quand même.
Ouais, bah, en réalité, faut demander au scénariste, parce que moi-même je découvre au fur et à mesure, mais je commence à évoquer des pistes et puis que les choses se font en bonne intelligence si possible, enfin quand c'est possible, et voilà.
Alors pour la suite, justement pour ce printemps, Fabien, il nous attend des belles choses avec Charlène. Is back ou pas is back? Parce que là, ça paraît quand même dead, hein, comme on dirait.
Ouais, ça paraît.
Disent les jeunes.
Ça paraissait dead, et puis au service du romantisme le plus exacerbé, il se trouve que deux personnages qui ont fini par se détester et par se battre à coups de vengeance répétée ont fini par succomber à la chimie des corps et de l'esprit. Et finalement, ils se sont retrouvés. Et c'est magnifique. Après, il faut admettre que c'est toujours assez facile et agréable de se replonger dans les yeux de Biche, de Paula Petrenko. Donc, ça demande peu d'efforts de faire semblant de tomber amoureux de cette créature.
Alors, faut dire que non seulement Aria Paula, mais aussi les décors. Les décors sont formidables. Ce château est magnifique. Les jardins, les parcs, vous évoluez dans des décors, tous qui sont quand même assez magiques et bucoliques finalement.
Oui, c'est vrai, c'est l'un des aspects positifs et enivrants de cette série, c'est le choix de décors naturels, qui en plus de renforcer la crédibilité de l'histoire, enfin du décor lui-même, permettent de faire se développer entre nous des relations beaucoup plus agréables que si tout était tourné en studio. Parce que dans un studio, vous avez froid, il fait humide, l'ambiance n'est pas la même et vous voyez pas la lumière du jour. C'est le gros avantage d'Ici Tout Commence, les décors naturels. C'est toujours un plaisir de regarder les murs de ce château et de voir des décors nouveaux se créer sous la plume experte des scénaristes et surtout le talent inouï et la technicité des gens qui sont à l'équipe ce qu'on appelle de la décoration. Sur un tournage, il y a une équipe de gens, de menuisiers, de peintres, de décorateurs et j'en passe, qui créent des décors en quelques jours. C'est extraordinaire. Et c'est des gens passionnants qui savent absolument tout faire. Ces gens travaillent beaucoup plus que les acteurs.
Est-ce que des fois, tu mets un petit peu ta patte dans les dialogues? Est-ce que tu as un peu cette liberté ou pas de déroger un tout petit peu de ce qui est écrit au mot près?
Je vous remercie de souligner ça. Oui, j'essaie de m'approprier un petit peu les dialogues. Je sais que Louis Guinaud est écrit de telle ou telle manière et j'essaie de la respecter. Par contre, j'essaie de le rendre un peu moins caricatural ou puéril ou misogyne que ce qu'aurait voulu, fut un temps, certains scénaristes apparemment. J'ai essayé de gommer un petit peu de ces aspects pour en renforcer d'autres. J'ai essayé d'ajouter de l'humour, de l'ironie et de la légèreté, mais ça a été un long combat. Et maintenant, je crois que l'équilibre est plus intéressant. Peut-être me trompais-je, mais je crois qu'il est plus intéressant qu'auparavant.
Ici Tout Commence, ça ouvre des portes. T'as tourné dans l'adaptation de la vie de Brigitte Bardot, notamment. Ça permet aussi de se nourrir de d'autres expériences. C'est ce qui est important pour un comédien, bien sûr aussi.
Je sais pas si Ici Tout Commence a ouvert les portes, parce que je crois que mon arrivée sur le casting de Bardot, en l'occurrence, ou d'autres choses dont je vais vous parler, n'a rien à voir avec Ici Tout Commence. Évidemment, ça ouvre les portes d'une certaine popularité, que je sais très circonstancielle et très relative, mais réel tout de même, à certains égards. C'est très agréable de pouvoir discuter avec des gens qui vous portent une sympathie, qui est liée évidemment à vos passages à la télévision, mais encore une fois, tout ça est très circonstanciel. Et oui, bien sûr, j'ai envie d'élargir l'horizon, j'ai envie de faire des choses plus historiques, plus fantastiques, avec plus d'action, et voilà, Ici Tout Commence m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de rencontrer des gens avec plaisir, de gagner des sous évidemment, me faire des amis. Maintenant, il faut aller voir ailleurs un petit peu, voilà.
Oui, exactement. Et puis se nourrir de d'autres choses, de d'autres acteurs, de d'autres producteurs, absolument, d'autres réalisateurs. Ça, c'est très important aussi.
Pour revenir éventuellement, selon les désirs de la chaîne et des scénaristes, avec plaisir et efficacité dans Ici Tout Commence. Rendons-nous mutuellement service, bien sûr.
Et du public. Tu vas voir que le public va pas mettre beaucoup de temps à te réclamer. Je te le dis, mon cher Fabien.
J'en profite pour remercier les gens qui... Alors certains confondent complètement Louis Guinaud et Fabien, ce que j'entends très bien, hein, ils le voient tous les jours à la télé. J'entends très bien qu'au bout d'un moment, tu fasses plus trop la différence. En revanche, les gens qui me crachent dessus dans la rue, etc., font partie de... Non mais, tu vois, ça arrive vraiment, tu vois. On m'avait dit, je pensais pas que c'était vrai, mais c'est vraiment vrai, tu vois. C'est un truc de ouf. Et en fait, bon... Ça peut être marrant, mais ça peut être aussi un petit peu déstabilisant. Et je suis passé un peu par toutes les étapes. Je profite de ce moment pour présenter mes excuses aux rares, très rares, mais véritables personnes qui m'ont insulté et à qui j'ai répondu naïvement et faiblement par l'insulte. En fait, j'ai essayé d'expliquer à de nombreuses personnes que je n'étais pas Louis. Ces gens m'expliquaient que si, quand même, et ça m'a joué des tours. Alors évidemment, l'écrasante majorité des gens est particulièrement bienveillante, et c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec eux, mais je rappelle que je ne suis pas Louis Guinaud et que je suis même à de nombreux égards son exact opposé.
Et n'oublions pas, évidemment, que nos comédiens incarnent des personnages avant tout, et qui sont au service de ces personnages, certes, mais qu'ils incarnent des personnages, quoi qu'il en soit. Tes projets pour 2023?
Merci de me demander, c'est très agréable et très élégant de votre part. Alors, mes projets pour 2023. Alors, donc il y a effectivement Bardot qui doit être diffusé.
Ça va arriver d'une semaine à l'autre.
Quoi d'autre? Alors je viens de tourner un pilote avec un ami qui s'appelle Fabrice Hourlier pour essayer de lancer un long métrage extraordinaire sur la guerre de 14 qui aurait continué. Univers steampunk génial. D'autres projets, j'ai failli faire un film sur la résistance, tourner l'histoire notamment d'un résistant belge dans un film produit par une production internationale basée en Pologne par le mec extraordinaire qui a produit Katyn à l'époque, il y a assez longtemps. J'ai pas pu le faire à cause du calendrier Ici Tout Commence. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit qu'il fallait essayer de trouver de la liberté et essayer d'aller voir aussi ailleurs. Je vais enfin lancer si possible avec entrain et enthousiasme et curiosité et appétit, mon film sur la résistance dans le Vercors en juillet 44, sujet qui me fascine et qui me passionne. Autrement plus large, je trouve que les états d'âme de certains personnages caricaturaux dans une cuisine. Et puis du théâtre, bien sûr. Alors il y a la fameuse histoire de James Dean, mise en scène par mon ami Jean-Philippe Bèche, qui a été un tout petit peu repoussée, mais qui évidemment va se faire et ça va être chouette. Je fais James Dean avec Monsieur Valentin de Carbonnière. Fort sympathique aussi, et puis une autre pièce aussi, et puis on m'a parlé d'une autre pièce aussi, mais alors là j'ai pas le droit de le dire, mais c'est assez concret et c'est avec un grand plaisir que je retournerai évidemment sur les planches. Voilà, et puis pour la télé, il y a un autre truc.
T'en as pour jusqu'à au moins fin 2024 là déjà.
Ouais, ça. Non, mais il se passe un truc, c'est cool, enfin, ça y est, voilà. Et puis, surtout ça me donne envie de relancer mes propres projets parce qu'à un moment, on ne peut pas être que acteur. Et je retrouverai le plaisir de l'être en faisant autre chose. Voilà.
C'est bien dit ça. Bon, merci mon cher Fabien. En tout cas, on se dit à très vite. On sera là pour être à tes côtés, évidemment, pour tous ces projets. Et on te dit à très bientôt.
Merci infiniment. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est pas de la langue de bois, c'est vraiment vrai.
Précédemment. Oh, mais t'es déjà là ?
Oui, je suis déjà là.
On travaille sur une recette avec Théo.
Et Anaïs était la partenaire idéale.
Il s'en veut, t'es sûr que ça va ?
Il y a un problème.
Ah non, aucun problème. Tu préférais qu'on garde nos distances.
Maintenant qu'ils sont bons et revenus, c'est ça?
Oui.
Est-ce que c'est toi qui balances les secrets?
Comment tu peux penser ça de moi?
T'as tué la croix, toi? Ça prend 5 secondes de fouiller dans son téléphone.
Et si ça brise notre couple? Imagine, il me trompe.
On connaît même pas ton secret.
Tu vois, je te l'avais dit, on l'a accusé pour rien.
Je fais que de tourner en rond. Et quand mon secret va sortir, ce sera encore pire. Demain, un nouveau secret sera révélé et un professeur sera impliqué.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, spéciale Léo Mattei pour fêter les 10 ans de la série. Jean-Luc Reichmann sera notre invité exceptionnel avec Nathalie Lecoultre. Nous aurons le plaisir de parler également du retour de Je te promets, de la sortie du film Les Complices, Laura Felpin, François Damiens, William Legbill et la réalisatrice Cécilia Rouault seront avec nous.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.